Vous écoutez l'Odyssée des ondes
avec le collège Jean Jaurès de UL Goat.
Bonjour à tous, nous sommes les de collège Jean Jaurès à UL Goat.
On va vous présenter une géologue. Mais qu'est-ce que c'est la géologie ?
Dans ce reportage, nous vous faisons découvrir la géologie en général et aussi les roches de UL Goat. Notre invitée s'appelle Muriel Cléo. Elle travaille à Creuson, à la maison des minéraux.
Est-ce que c'est dangereux d'être géologue ?
Eh bien, ça dépend. Ça dépend. Les géologues, ils s'intéressent à l'histoire de la planète, mais en fait, ils ont tous des spécificités. Et en fonction de leurs spécificités, ils vont aller sur le terrain chercher les roches. Donc, s'ils sont, par exemple, paléontologues, ils vont aller chercher des fossiles. Alors des fossiles, ça veut dire qu'ils vont sur un terrain où on peut trouver des fossiles. Ça va être différents terrains, mais c'est pas forcément dangereux. Donc à chaque fois, ça implique d'être dehors. Quelquefois, les géologues, ils s'intéressent plutôt au sable. Donc est-ce que c'est dangereux d'aller chercher du sable dans la rade de Brest ? On peut penser que pas forcément, mais il y en a d'autres qui vont s'intéresser au tremblement de terre. Et donc, eux, ils peuvent être amenés à voyager dans le monde entier et aller à des endroits où, possiblement, il y a des tremblements de terre, où il y en a eu, il y a peut-être des répliques qui vont arriver. Donc ça, ça les amène à voyager et aller peut-être, effectivement, des endroits où c'est un peu plus risqué. Là où ça peut être effectivement plus dangereux, c'est peut-être pour les volcanologues qui, eux, s'intéressent aux volcans et qui, en général, vont les chercher de plus près. Ils cherchent à aller chercher les dernières éruptions, les dernières roches qui se sont formées. Et donc, ça peut être dangereux. Voilà, il y a des histoires de géologues, Maurice et Katia Kraft, qui, par exemple, ont été sur un volcan au Japon et vraiment au plus près d'une éruption assez dangereuse, des nuées ardentes, et ils y sont restés.
Comment devient géologue ?
C'est une envie. Enfin, je pense qu'il faut vraiment que ça naisse d'une envie. Ça veut dire qu'on s'intéresse aux cailloux. Ça peut commencer comme toi, ramasser des cailloux sur le chemin et se dire « Tiens, qu'est-ce que c'est ? J'aimerais bien savoir ce que c'est ces roches. » Et puis, on en apprend un petit peu plus et on a envie d'en savoir plus. Donc, ça veut dire passer du temps dans les livres, à l'école, à la fac ou par des grandes écoles. Et toujours avoir envie d'en savoir plus sur l'histoire de notre planète qui a vraiment une très, très longue histoire et une échelle de temps qui n'est pas évidente. Parce que c'est quand même des milliards d'années. Alors, je ne sais pas ce que ça vous fait. Des milliards d'années. D'imaginer qu'on est habitant d'une planète qui a une très longue histoire, qui a démarré il y a quelques milliards d'années. Et même quand on regarde ces blocs de roches là qui sont devant nous, eux, ils ont une histoire qui a plusieurs centaines de millions d'années. Ils se sont formés il y a plus de 300 millions d'années.
Vous écoutons Trogistoche et nous écoutons Muriel Cléo nous parler de géologie.
Nous nous trouvons dans la forêt de Huguet. À côté d'une petite carrière qui nous pose des questions.
La question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un trou là au milieu là ? C'est quoi ce trou à votre avis ?
C'est un taureau, il a foncé dessus.
Il est grand comment le trou ?
Gros !
Plus haut !
Plus gros !
Ah, plus gros, pardon !
Plus gros et plus haut !
Ouais, c'est quoi ?
C'est la guerre !
Là, c'est une guerre mondiale.
Ils font des trous pour se cacher dedans.
Non. Ah oui, d'accord.
Ouais. Kenji, vas-y.
C'est des trucs là pour laver les affaires là. Il y avait ça avant.
Ah, un lavoir.
Ouais.
Un lavoir géant.
Ouais.
Sur les côtés, c'est de la roche ou du sable ou autre chose ?
On dirait un peu de la roche cassée.
Tiens, regarde, j'en ai pris un petit peu.
Un peu du sable et de la roche cassée.
Ouais, c'est ça, c'est effectivement de la roche qui est rendue friable. Même là, on sait que c'est un granit qui a été altéré et qui se transforme en sable. D'accord. Alors il y a des plus gros morceaux. Vous voulez en prendre un petit peu ? Il y a des plus gros morceaux.
Je sais ce que c'était ici. Un caillou.
Ah oui, c'est marron.
Et puis il y a des morceaux plus fins.
C'est un caillou ici. Et là, ça doit être un caillou qui s'est désintégré.
Nous poursuivons notre chemin dans la forêt de Eloat. Nous dirigeons vers la roche sacrée.
Pourquoi les roches sont rondes ?
Ça veut dire qu'auparavant, ici, il y a plus de 300 millions d'années, quand cette roche s'est mise en place, il y a eu des remontées de magma. Ce n'est pas arrivé en surface. C'est un magma qui a refroidi quand même à plusieurs kilomètres de profondeur. Et donc, il a mis son temps. Il a mis du temps pour refroidir. Les minéraux ont eu le temps de se former. C'est pour ça qu'on les voit à l'œil nu. Peut-être après, on les regardera un peu plus en détail. Donc, ça a formé ce qu'on appelle un pluton granitique qui va s'étendre sur des kilomètres et des kilomètres. Il faut imaginer une grande plateforme de roches énormes qui s'étend sur plusieurs kilomètres et elle va être recoupée par des fissures, par des réseaux de fissures. C'est l'altération, l'eau, le vent qui s'infiltre dans ces fissures, qui va user la roche jusqu'à fabriquer l'arène granitique qu'on a vue tout à l'heure. Donc il va attaquer, l'eau va préférentiellement attaquer au début les feldspathes, qui est un des minéraux du granit, qui va se transformer en sable, en argile même. Ça va finir par donner du kaolin. Et il y a aussi, pas très loin d'ici, les carrières de kaolin, qui sont issues de l'altération de ces minéraux. Et donc ça va donner naissance à cette argile, ça va déchausser les autres minéraux et ça va créer l'arène granitique, donc un sable avec des éléments de différentes tailles comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau donc de ces fissures. Et il nous reste la partie dite saine, en tout cas la partie qui est moins attaquée par l'altération, qui va donner ces sortes de grosses boules. Voilà pourquoi les roches sont rondes.
Passons aux choses sérieuses. C'est gentil les cailloux, mais bon, est-ce qu'il y a des choses précieuses dans les roches à Huelgoat?
Est-ce qu'on peut trouver des pierres précieuses comme des diamants dans la roche à Huelgoat?
On aimerait bien. Vous auriez envie d'en trouver. On trouve en tout cas des métaux précieux, parce qu'il y a des mines, des anciennes mines à Huelgoat, les anciennes mines de plomb argentifère, où on va trouver des métaux comme le plomb et aussi un petit peu d'argent. Donc oui, et ces anciennes mines, elles ont une longue histoire qui va aussi façonner toute l'histoire du village de Huelgoat et aussi son paysage. Là, on se balade dans la forêt, donc on le voit pas forcément, mais effectivement, la mise en place du lac, des canaux, puis toutes les galeries qui ont permis l'exploitation, la prospection de ces anciennes mines, ça a vraiment façonné le paysage de Huelgoat.
Est-ce qu'on peut trouver de l'or ?
Est-ce qu'on peut trouver de l'or ? Alors, j'ai regardé parce que j'avais vu que c'était une de vos questions. Est-ce qu'on peut trouver de l'or à Huelgoat? Visiblement, oui, on en a trouvé. En tout cas, je suis tombée sur un article qui date un petit peu maintenant, qui a dû paraître il y a 60-70 ans, de Louis Choris, qui disait on a trouvé de l'or dans du quartz du côté de Huelgoat. Bon, alors, j'ai pas lu tout l'article, mais visiblement, ils en ont trouvé à un moment donné, peut-être en petite quantité. Et en tout cas, après, il n'y a plus d'articles, il n'y a pas eu d'exploitation autour de l'or, donc on pourrait dire qu'il y en a eu, il y en a, on peut en trouver, mais vraiment en petite quantité, en tout cas pas suffisamment pour qu'on en parle plus que ça.
Pour terminer cette émission, nous avons plein de questions sur les tremblements de terre et la roche tremblante.
Est-ce que la roche tremblante peut nous tomber dessus ?
La roche tremblante, c'est vrai que c'est quand même, on l'a dit tout à l'heure, un caillou de plus de 130 tonnes qui ferait peut-être 25 éléphants, si notre calcul est bon. Donc plutôt, on n'aimerait pas qu'elle nous tombe dessus. Quand on la regarde quand même, elle repose sur un socle, elle est plutôt bien installée, j'ai envie de dire. Elle est quand même sur sa surface la plus large, la plus longue, et puis elle est sur un socle. Donc elle risque pas, en tout cas, de dévaler ou de tomber comme ça, n'importe comment. Elle est plutôt sur un socle bien installé, et elle a un petit point, même si elle a un petit point d'équilibre, elle risque pas, en tout cas, de dévaler.
Est-ce que c'est possible d'avoir des tremblements de terre à Huelgoat?
Alors, l'histoire géologique fait que, effectivement, c'est possible. Parce que nous, on a parlé pas mal du granit, mais en fait, l'histoire géologique de la Bretagne et du massif armoricain, elle est assez longue et complexe. Mais à un moment donné, elle a fait partie d'une grande chaîne de montagnes. Donc, on peut imaginer que là, au-dessus, de la roche cintrée, il y avait des kilomètres et des kilomètres de roches. voilà, qui ont été usées au cours du temps, parce que cette chaîne de montagnes a été présente il y a 300 millions d'années. Et donc ça a été usé, tout ce qu'il y avait au-dessus a été usé. Mais la fabrication d'une chaîne de montagnes fait aussi qu'on a des grandes fissures. Parce qu'à un moment donné, il y a tellement de force que ça finit par casser. Donc on a un territoire qui est recoupé par un système, un réseau de failles. Donc on a des failles qui sont présentes dans le sous-sol. Et on a toujours, aujourd'hui, même si elles ne sont pas très importantes, des tensions qui peuvent s'accumuler. Et ces tensions, elles vont être relâchées, cette énergie, elle va être relâchée au niveau de ces failles. Donc, oui, il peut y avoir des petits tremblements de terre. Ce qui est bien, c'est comme je viens de le dire, c'est qu'ils sont petits. C'est-à-dire qu'ils vont être en général d'une magnitude, on les mesure de cette manière-là avec leur magnitude, magnitude assez faible, donc autour de 3, 4. J'ai même regardé hier, il y a un réseau en ligne où on peut voir, ils affichent les nouveaux séismes. Il y en a eu un au sud de Carhaix. Et alors, je crois qu'il était de magnitude 1,6. Donc, voilà, c'est à peine perceptible.
Passez une bonne journée sur Transistor et à bientôt.
Vous écoutez l'Odyssée des ondes.
Avec le collège Jean Jaurès de UL Gouette.